trop dit rire. Lâche-moi, je t'y fais. Alléluia.
Quand tu mets les doigts, au
mes mains en victoire. Célébrant Jésus, roi de gloire, je m'avancerai vers son trône, jetant à ses pieds ma couronne.
Je lève mes mains en victoire.
Thank you. Alléluia, Seigneur, il est bon d'être dans ta présence. Seigneur, tu nous as créés pour vivre dans ta présence. Ta présence nous rend heureux. Ta présence est une source de consolation, une source de révélation et une source de consécration. Car nous ne pouvons rester les mêmes lorsque tu es au milieu des tiens. Nous ne pouvons rester les mêmes. Seigneur, nos vies t'appartiennent. Veuille bénir ta parole maintenant. Qu'elle puisse encore parler à nos cœurs. Garde-nous, Seigneur, d'être insensibles devant ta parole. Mais qu'au contraire, continuellement, nous soyons attentifs à ce que tu veux nous dire. Car tu as dit toi-même, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. La preuve que nous t'aimons, Seigneur, c'est que nous obéissons à ta parole. Il n'y a pas d'autre moyen pour prouver que nous t'aimons. Ainsi que cette parole pénètre dans le fond de notre cœur et nous transforme à ton image. C'est ma prière, Seigneur, parle-moi. Et parle-nous ce matin. Seigneur, tu nous as fait du bien par ta présence. Nous t'avons loué, béni de tout notre cœur. Et maintenant, tu veux t'adresser à nous. Comme tu l'as fait à tes disciples autrefois, parle-nous. Donne-nous une oreille docile à ta voix pour faire toute ta volonté. Et courir dans la voie de tes commandements.
Amen.
Et nous réjouir de ta parole comme celui qui a découvert un grand butin. Fais tomber les écailles de nos yeux et de mes yeux encore, Seigneur. Donne l'esprit de sagesse et de révélation pour connaître ta pensée. Car sans toi, je ne sais rien, je ne peux rien, Seigneur. Inspire par le Saint-Esprit et glorifie le Seigneur au milieu de nous. Amen. Merci, Seigneur. Oh, loué soit le nom de Jésus.
Amen.
Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur, avant de monter au ciel, a donné à ses disciples un message, une mission. Et c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 17, que nous trouvons cette prière sacerdotale du Seigneur. Lorsque nous lisons les différents chapitres, nous voyons que la prière sacerdotale dans Jean 17, c'est un peu le point culminant du ministère du Seigneur dans son enseignement. Tout de suite après, au chapitre 18, nous voyons que c'est l'arrestation de Jésus. Donc au chapitre 17, le maître finit par une prière. Une prière au Père qui révèle la mission de l'Église, la mission des disciples du Seigneur. Quelle est cette mission? Quels sont les objectifs que Jésus met en évidence dans sa prière? C'est très important. Dans l'Église, d'une manière générale, nous ne pouvons pas faire ce que nous voulons, n'est-ce pas? Nous sommes ici pour faire ce que Jésus veut, pour accomplir son programme et non le nôtre. Si nous voulons accomplir notre programme, nous pouvons le faire. Mais un jour, tout sera vain. Et nous risquons d'avoir couru pour peu de choses. Un jour, le Seigneur soufflera là-dessus. Et dira, mais tu n'as pas accompli mon programme. Que le Seigneur nous aide à accomplir ainsi son programme. Quelle est donc la mission de l'Église? Le titre de ce message est donc la mission de l'Église. Et nous voyons dans Jean 17, les 8 objectifs de la mission de l'Église. 8 pensées précises qui nous révèlent la mission de l'Église. Vous savez, il est toujours bon de nous rappeler pourquoi nous sommes sur la terre. Vous êtes d'accord avec moi? Il est toujours bon de nous rappeler pourquoi Jésus nous laisse ici. Si Jésus te laisse ici, me laisse ici, c'est que nous avons une mission précise. Sinon, il nous aurait déjà pris depuis longtemps. Mais nous avons une mission, vous avez une mission. Quelle est donc cette mission? Il nous faut constamment nous en rappeler. Sinon, nous pouvons passer notre temps à des futilités, à des choses qui ne sont pas dans le programme de Dieu. Alors, quelle est donc cette mission? Il y a 8 points importants. La première mission de Jésus, lorsqu'il était sur la terre, ce sera aussi notre première mission, c'était de glorifier son Père. Jean 17, 4, notez la première référence, si vous le voulez bien. Jean 17, 4 nous révèle la première mention de la mission de Jésus. Jean 17, 4. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Regardez cette prière. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné. La première mention, le premier objectif de Jésus, c'était de glorifier son Père sur cette terre, n'est-ce pas? Je t'ai glorifié. J'ai achevé l'œuvre. Et notre première mission ici-bas, c'est de glorifier le Seigneur Jésus dans nos vies. De le glorifier de telle sorte qu'il est, lui, en tout temps, la première place. N'est-ce pas vrai? Jésus, en tout temps, en toute chose, doit avoir la première place. Et tout ce que nous faisons doit avoir cet objectif-là. Ne l'oublions pas, glorifier le Seigneur. Vous savez, on peut travailler pour deux choses. On ne le dit pas toujours. Ou on travaille pour le Seigneur, pour le glorifier lui, ou alors c'est pour nous glorifier nous-mêmes. C'est pourquoi nous devons continuellement voir quelle est la motivation qui nous anime. Ce que je fais, est-ce que je le fais vraiment pour le glorifier lui ou pour me glorifier moi-même? Vous savez, c'est une pensée qui doit constamment être dans notre cœur. Un objectif continuellement devant nous. Sinon, tout ce que nous construisons risque d'être du chaume, de la paille, du foin, tout cela sera brûlé un jour et il n'y a plus rien qui restera. La motivation profonde, je t'ai glorifié. Voyez-vous, constamment le Seigneur disait, ce que je fais, je ne le fais pas de moi-même. Tout ce que le Père fait, je le fais aussi. Mon Père est plus grand que moi. Je suis venu non pour accomplir ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Continuellement, Jésus glorifiait son Père. Il n'y avait rien pour lui. Et c'est là le point le plus important. Qu'est-ce que je fais pour le Maître? Et si je fais quelque chose, est-ce que c'est pour me vanter, pour me glorifier? Ou alors est-ce que c'est pour glorifier le Seigneur? Je t'ai glorifié. Nous devons le glorifier individuellement et nous devons le glorifier en tant qu'Église aussi. On peut ne pas se glorifier, peut-être quelques-uns ne peuvent ne pas se glorifier dans une église, mais toute une église peut se glorifier d'elle-même. Il y a tant d'églises qui se glorifient de leur église, n'est-ce pas vrai? Quand ils parlent davantage de leur église que du Seigneur. Avez-vous remarqué cela? Quand ils parlent, c'est toujours leur église qui vient en premier. Jésus, une fois de temps en temps. Mais l'Église, on en entend continuellement parler. Sans s'en rendre compte, ils glorifient une église. Une église. Au lieu de glorifier le Seigneur. C'est très subtil. Nous pouvons aussi glorifier un homme. Et Dieu ne donnera jamais sa gloire à un homme. Jamais. Et laissez-moi vous dire une chose, mes amis. Si Dieu peut trouver en nous cette motivation sincère et profonde, que tout ce que nous faisons est constamment placé sous l'éclairage divin. Seigneur, je ne veux rien pour moi, mais tout pour toi. Je ne veux pas dire que tout est parfait. Parfois, le moi est là, et qui veut s'infiltrer. Mais constamment, nous devons laisser la lumière divine pénétrer en nous et nous montrer quand quelque chose glorifie l'homme, qu'il puisse nous le montrer. Et dans l'humilité et le brisement, dire « Oh, pardon, Seigneur, purifie-moi. Je ne suis pas ici-bas pour me glorifier moi-même. Je suis ici-bas pour te glorifier. » Laissez-moi dire une chose, celui qui a cet objectif-là, Dieu l'utilisera. Dieu l'utilisera. Puissamment. C'est là un objectif qui doit être devant nous. Et lorsque Dieu nous utilise, donnons-lui toujours toute la gloire. Amen. Je t'ai glorifié. Sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Quelle prière, quelle assurance, quelle motivation. Rien d'impur dans la vie de Jésus, dans ses motivations, dans ses désirs. Nous sommes encore sur la terre. L'impureté se mêle encore à nos pensées, nos désirs. Mais le Seigneur veut que constamment nous marchions dans cette purification, n'est-ce pas vrai? Et plus notre désir est sincère de le glorifier, eh bien Dieu nous utilisera. Je n'ai jamais vu une personne qui cherche vraiment à glorifier Dieu et qui n'est pas utilisée par le Seigneur, ça n'existe pas. Mais je peux voir, et vous pouvez le voir comme moi, des multitudes qui cherchent à se glorifier, mais qui ne font pratiquement rien pour le Seigneur, où nous ne voyons pas l'onction du Seigneur sur ces personnes-là. Alors, première mission, Seigneur, je veux te glorifier. Est-ce là votre prière aussi? C'était la prière de Jésus, je t'ai glorifié. Que nous puissions dire, mes amis, lorsque nous allons rendre le dernier soupir, lorsque nous fermerons nos yeux un jour, ici-bas, que nous n'ayons pas de regrets. Oh, nous n'aurons pas tout fait parfaitement, mais qu'au moins, nous puissions dire, Seigneur, j'ai cherché une chose, à te glorifier sur cette terre. Je ne me suis pas prêché moi-même, mais je t'ai prêché toi, et j'ai voulu te refléter. Je l'ai fait imparfaitement, mais je l'ai fait de tout mon cœur. Cela est suffisant pour le Maître. Amen. Je t'ai glorifié. Ne l'oublions pas, mes amis, et Dieu ne donnera jamais sa gloire à un autre. Jamais. Jamais. Une deuxième mission, un deuxième objectif, au verset 8, 17, verset 8, voici ce que Jésus dit. Maintenant, ils ont connu tout ce que tu m'as donné, que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données, et ils les ont reçus, et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Alors voilà la deuxième mission de l'Église et du chrétien. Nous devons garder sa parole. Verset 8, donc 17, verset 8. Nous devons maintenant garder sa parole. Vous voyez, car je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçus. Et ils les ont reçus. Autrement dit, la pensée ici, c'est que Jésus a gardé toutes les paroles de son Père sans en retrancher quoi que ce soit, n'est-ce pas? Mais cette parole qu'il a reçue, il la communique à ses disciples, à vous et à moi. Et cette parole, nous devons la garder. Nous devons garder toute la vérité et rien que la vérité. Nous n'avons rien à ajouter, rien à retrancher. Vous ne croyez pas que c'est un combat dans ce domaine-là? Combien sa parole est mutilée? Combien ajoute à cette parole? Et combien retranche à cette parole aussi, n'est-ce pas vrai? Combien ont failli à cette mission de l'Église de garder la parole du Seigneur? Mais les disciples ici, ils ont gardé ta parole, ils l'ont reçue. Et ils communiquent cette parole comme ils l'ont reçue, mes amis. Ce que nous annonçons, est-ce vraiment les paroles du Seigneur? Ou est-ce des paroles humaines, des traditions humaines, des idées personnelles, les paroles de notre Église? Ou est-ce que ce sont les paroles du Maître? Nous avons une responsabilité, vous avez une responsabilité, j'ai une responsabilité. Nous sommes ici, ben non pas pour annoncer notre parole, mais sa parole. Et non pas les paroles d'un homme, ou du plus grand théologien, ou du plus grand prédicateur. Nous devons tester les paroles du plus grand prédicateur ou du plus grand théologien. Tous les hommes peuvent se tromper. Je peux me tromper, vous pouvez vous tromper. Amen. Je dois être testé, vous devez être testé. Et vous devez tester ce que vous entendez des autres. C'est le seul moyen d'accomplir la mission de l'Église. Car vous le savez bien, Jésus lui-même le dit dans Jean chapitre 8. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Amen. Il n'y a que la parole de Dieu qui est la vérité qui libère. Il n'y a rien d'autre qui libère que la vérité de Dieu. Amen. Aucune parole humaine, aucune tradition humaine, aucune parole religieuse, quelle qu'elle soit, n'a la puissance de libérer qui que ce soit. C'est pourquoi beaucoup de gens religieux qui ont accepté des enseignements religieux humains sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de transformation. Parce qu'ils ont cru, accepté et annoncent des paroles humaines qui n'ont pas la puissance de changer quelqu'un. Je leur ai donné ta parole. Et ils l'ont reçue. Alléluia. Qu'ils puissent dire cela de nous-mêmes aussi. J'ai donné ma parole à l'un, à l'autre, et ils l'ont reçue. Et ils ne prêchent que la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Voilà le message, la mission que Dieu t'a confiée. Ah, dans cette vérité, il y a des vérités agréables, et il y a d'autres vérités désagréables. Qu'allons-nous prêcher? Faire comme certains, que des vérités agréables? Alors, nous attirerons la désapprobation de Dieu. Dans la vérité, il y a des vérités agréables. Il y a des vérités qui ne sont pas aussi agréables à entendre, n'est-ce pas vrai? Mais nous devons être fidèles, c'est notre mission. Pourquoi Jésus a-t-il été crucifié? Parce qu'il a dit la vérité. Parce qu'il a dit la vérité. Et cette vérité ne plaisait pas à tout le monde, n'est-ce pas? Et pourquoi les premiers chrétiens ont été persécutés, martyrisés, rejetés? C'est vrai, il y a eu de grandes choses qui se sont passées dans l'Église. Des miracles, des choses extraordinaires, alléluia! Mais ne l'oubliez pas, il y avait aussi la souffrance, la persécution, le rejet, l'incompréhension. Ce message n'est pas accepté par tout le monde. Qu'allons-nous faire? C'est une tentation. Nous risquons de changer notre message pour plaire à l'un ou à l'autre. Nous pouvons faire cela. Si nous cherchons l'approbation des hommes, nous nous attirons automatiquement la désapprobation divine. Préférons l'approbation divine à l'approbation humaine. Amen. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Un homme avec Dieu est une majorité. Peu importe la désapprobation des hommes, pourvu que mon Père m'approuve. Pourvu que mon maître m'approuve, pourvu que ce soit sa parole que je prêche, c'est le plus important. Et au jour du jugement, alors, il me dira, cela va bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle. Voyez-vous, tu as été fidèle. Tu as été fidèle. Fidèle à quoi? À la parole. Tu as été fidèle. Entre dans la joie de ton maître. Alléluia. Il n'a pas dit, tu as eu beaucoup de succès. Entre dans la joie de ton maître. On parle beaucoup de succès aujourd'hui. Mais la Bible ne parle pas de succès. Si un ou deux endroits, il est parlé du succès, c'est toujours le succès pour obéir à la parole de Dieu. Ce n'est pas pour se vanter soi-même. Mais le véritable succès aux yeux de Dieu, c'est d'être fidèle à sa parole. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Ne cherchons pas à avoir du succès, cherchons plutôt à être fidèles. Ça, c'est le vrai succès aux yeux de Dieu. Même si aux yeux des hommes, nous sommes un échec, mais aux yeux de Dieu, c'est la réussite, c'est le succès. Et Dieu te récompensera un jour, ne l'oublie pas. Non seulement là-haut, mais ici-bas aussi. Dieu peut te confier une tâche. Vous savez que Dieu cherche des hommes et des femmes à qui il peut remettre ce trésor de la vérité de la parole de Dieu pour l'annoncer aux autres. Mais il n'en trouve pas beaucoup. Parce que beaucoup ont peur d'annoncer cette vérité. Ou une partie de la... Ils annoncent qu'une partie de la vérité. Et ils n'annoncent pas toute la vérité. Qui seul libère les hommes et les femmes de l'esclavage, des ténèbres, de la puissance des ténèbres, des traditions religieuses. Je leur ai donné ta parole. Et ils l'ont reçue. Recevons toute sa parole, toute la vérité. Et je vous assure, Dieu nous donnera une mission, une tâche. Que le nom du Seigneur soit béni. Troisièmement, Jean 17, 13. L'Église, la mission de l'Église, une troisième mission de l'Église, Jean 17, verset 13. Voici ce que Jésus dit. Et maintenant, je vais à toi et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Il y a là une autre mission extraordinaire. Afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Donc la troisième mission de l'Église, c'est l'Église doit être remplie de joie. Très important. Dans beaucoup d'Églises, est-ce que nous trouvons la joie ? Dans certaines églises, quand vous rentrez, vous attrapez une dépression. Loin d'être touché par la joie. Mais vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils ont tous une mine d'enterrement ici. Je leur ai donné ma joie. La mission de l'église est d'être remplie de joie. Amen. La joie, il n'y a rien de tel pour attirer le monde, les inconvertis. Je lisais ce matin dans Actes, vous savez, au début des Actes, Acte 2, et puis à la fin du chapitre, regardez ce qu'il est dit. C'était là le secret des premiers chrétiens. Acte 2, versets 46 et 47. Chaque jour, ils étaient ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec quoi ? Avec joie. Et dans d'autres versions, c'est avec une grande joie, avec exaltation, avec allégresse, oui, c'est pas seulement, et simplicité de cœur. Donc, sans aucune arrière-pensée, ils étaient directs, ils étaient francs, c'était extraordinaire, une joie pure. Et alors, regardez ce qui se passe. Ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu, et ensuite, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le mot grâce, on pourrait le traduire aussi, et trouvant le respect de tout le peuple. Ils étaient respectés par le peuple. Pourquoi ? À cause de cette joie qui se manifestait jusque dans leur vie quotidienne, en prenant la nourriture, en louant le Seigneur, bien sûr, on ne peut pas louer le Seigneur sans être joyeux, vous êtes d'accord avec moi ? Si on n'a pas envie, si on n'est pas joyeux, je vous conseille une chose, commencez à louer le Seigneur, vous allez voir, vous allez débloquer en vous un petit robinet, c'est le robinet de la joie. Plus on loue, plus cette joie commence à venir, n'est-ce pas vrai? Ça, c'est comme ça. Alors, il y a des fois, on n'est pas joyeux. Un petit secret, louez le Seigneur. La joie est un puissant témoignage pour les inconvertis. Nous l'avons lu, ils prenaient leur nourriture avec joie, simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. La joie dans l'Église, est un instrument qui permet d'attirer les âmes au Seigneur. Et ensuite, il est dit, dans Actes, toujours à la fin, il est dit, « Et le Seigneur ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. » C'est dans le même passage, le dernier verset. « Et le Seigneur ajoutait à l'Église tous ceux qui étaient sauvés. » Les gens, voyant la joie des premiers chrétiens, avaient envie de se joindre à eux. On a toujours envie de se joindre à un groupe qui est joyeux. Amen. Mais on n'a jamais envie de se joindre à un groupe qui est triste. Vous êtes d'accord avec moi? Moi, je serai le premier à fuir des gens tristes. Et vous êtes comme moi. Mais ne l'oubliez pas, si nous, nous sommes tristes, nous faisons fuir les autres. Ne l'oublions pas. Si nous, nous ne voulons pas nous joindre à des gens tristes, mais si nous, nous sommes tristes, nous repoussons les autres. Ils nous regardent une fois. Bon, d'accord, ils sont bien gentils, mais au revoir, c'est bien. Alors, quelle est notre mission, mes amis? C'est très important. Cette joie, c'est de manifester. Je leur ai donné ma joie. Une église joyeuse est un puissant témoignage pour attirer les inconvertis. Alléluia! C'est pourquoi lorsque nous venons à l'église ou à la maison, manifestons cet esprit de joie. Bien sûr, il y a parfois des combats, des souffrances, des difficultés. Mais cette joie, la joie du ciel, la joie divine, c'est une joie qu'on peut avoir même lorsqu'il y a des larmes qui coulent en nous. Amen. Seigneur, ma force, la joie du Seigneur, Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma joie du Seigneur. Amen. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma force est dans la joie du Seigneur. Amen. Ça, c'est, il n'y a rien de... Il te faut... Si tu veux cette joie, il te faut prier. Si tu veux cette joie, il te faut prier. Ma force est dans la joie du Seigneur. Amen. Je crois que là, il y a là quelque chose de très important. C'est vrai. Alors, c'est notre mission. Vous dites, mais moi, mes parents, c'était des gens tristes. Mon grand-père, ma grand-mère, ils étaient toujours tristes. Alors, on est comme ça, nous. Ne dites pas ça. Vous êtes une nouvelle créature maintenant. Votre Père Céleste, c'est quelqu'un de joyeux. Jésus était loin d'une huile de joie. La joie, c'est aussi un fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience. Galates 5. La joie, c'est un fruit de l'esprit. Si nous ne manifestons pas la joie, alors nous ne sommes pas réellement remplis du Saint-Esprit. C'est notre mission. Ne l'oubliez pas. Si nous sommes joyeux, nous attirerons les autres. Amen. Ça m'intéresse. Ça m'intéresse. La joie attire, attire. Gloire à Dieu. Vous savez que rien que votre joie peut attirer des âmes au Seigneur. Vous dites, moi je ne sais pas parler. Tu n'as pas besoin de parler, tu n'as pas besoin de faire discours. Que si la joie du Seigneur rayonne sur ton visage déjà, ils vont bien venir te demander qu'est-ce qui se passe. Amen. Tu n'as pas besoin de faire de gros discours. C'est une autre mission, mes amis. Une église sans joie, c'est une église sans puissance. C'est une église qui n'enfante pas des âmes dans le royaume de Dieu. Mais une église joyeuse, c'est une église puissante, où les âmes se convertissent. Alléluia. Alors, allons plus loin. Quatrièmement, verset 14, il est dit, Jean 17, 14, je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont point du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Alors, quatrième mission, l'Église est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Voilà une autre mission de l'Église, Jean 17, 14. Notez cette pensée. L'Église est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Le poisson vit dans l'eau, mais l'eau n'est pas dans le poisson, vous êtes d'accord avec moi? Le bateau est dans l'eau, mais l'eau n'est pas dans le bateau. Si l'eau est dans le bateau, ça coule. On est dans ce monde, mais on ne doit pas être du monde. Il y en a beaucoup qui pensent que pour attirer des âmes au Seigneur, il faut faire comme le monde. Ça, c'est les nouvelles méthodes humaines. Si quelqu'un fume, il faut fumer avec lui. Si quelqu'un boit, il faut boire avec lui. Si quelqu'un va dans une boîte de nuit, on va dans une boîte de nuit avec lui. Soi-disant pour l'amener au Seigneur. Le jour où tu parles du Seigneur en faisant cela, il se moquera de toi. L'Église est dans le monde, mais elle n'est pas du monde. Amen. Et là, nous devons veiller à ce que, tout en étant dans ce monde, nous ne devons pas laisser le monde pénétrer en nous. Pénétrer en nous. Il faut qu'il y ait là une distinction entre l'esprit du monde et l'esprit chrétien. Il y a là deux pensées qui s'opposent. Et nous devons constamment veiller à cela, n'est-ce pas vrai? Le monde est là, nous environne, n'est-ce pas? Mais nous devons combattre. Il y a un combat là. Mais nous ne devons jamais penser qu'en faisant comme le monde, nous attirerons les gens. Jamais, au contraire, nous les éloignons. C'est lorsque nous sommes différents d'eux qu'ils se poseront la question. Mais toi, comment ça se fait que tu es heureux en étant différent, en ne faisant pas les choses comme moi? C'est notre différence qui les attirera au Seigneur. Amen. Mais il y en a beaucoup qui ne comprennent pas encore ça. Ils pensent qu'en étant comme le monde, ils attireront le monde. Jamais. Je vous laisse dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Nous devons être le sel de la terre et la lumière du monde. Amen. Nous devons être différents des autres. Différents. Différents. Il faut qu'il y ait cette différence, sinon, alors, notre mission a échoué. Nous avons échoué d'avance. D'avance. Qu'est-ce que nous avons à dire si nous faisons comme les autres? Qu'est-ce que nous avons à dire? Plus rien à dire. Nous apporterons des théories. Nous apporterons des bonnes idées. Une philosophie chrétienne. Mais nous n'apporterons pas le vrai message. Alors veillons à cela, mes amis. Nous sommes dans le monde, mais il ne faut pas que le monde pénètre en nous. Et il faut qu'il y ait une différence entre nous et le monde. Jean 17, 15 maintenant. Jean 17, 15. Il est dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Et dans une autre version, c'est du malin, de les préserver du malin. Alors la cinquième mission, si vous voulez, c'est l'Église a la victoire sur Satan. Alléluia! Je te prie de les préserver du malin, c'est tout. Le malin est vaincu. Vous savez, si le malin pouvait faire ce qu'il veut avec nous, il y a longtemps qu'il nous aurait tous détruits. Vous êtes d'accord avec moi? Mais il ne peut pas faire ce qu'il veut. Pourquoi? Parce qu'il est vaincu. Et notre mission est de proclamer que Satan est vaincu et que Dieu nous protège. Alléluia! Dieu nous protège. Les anges sont avec toi. L'Esprit de Dieu est en toi. Tu n'es jamais seul. Tu penses être seul, mais tu n'es jamais seul. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et les arrache au danger. Alléluia. Combien de missionnaires ont fait des expériences pensant que voilà, les sorciers allaient les détruire et tout. Mais lorsqu'ils ont prié, les sorciers eux-mêmes ont vu des anges, une armée d'anges qui campaient autour des missionnaires pour les protéger. Et il en est de même aussi à nos frères aussi d'Afrique et d'ailleurs qui font l'expérience de la protection divine. Alléluia. Aucun sorcier ne peut vous atteindre. Aucun ennemi ne peut nous toucher. Ah, il peut nous combattre. Il peut essayer de nous faire peur. Mais il est vaincu et nous sommes vainqueurs. Alléluia! C'est la mission de l'Église de confesser la défaite de Satan et la victoire du chrétien sur Satan. Alléluia! Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Gloire à Dieu. C'est là la mission de l'Église. Ne crains pas, celui qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Dis-le à l'ennemi lorsqu'il te tente. Dis-le à l'ennemi lorsqu'il essaye de te ravir la bénédiction. Arrière de moi, Satan. Tu ne peux me toucher. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Voilà, un cinquième point. Sixièmement, Jean 17, 20, 21, versets 20 et 21 maintenant. Ce n'est pas pour eux seulement que je te prie, mais encore pour ceux qui croient en moi, pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Alors là, sixième mission de l'Église est celle-ci. L'Église doit amener des âmes au Seigneur par la prédication de l'Évangile. Voilà une mission très importante. Il est inutile de la rappeler, mais nous devons faire notre maximum pour sauver des âmes. Et cela, chacun d'entre nous, nous devons, là où nous sommes, faire le maximum pour parler du Seigneur et essayer d'attirer des âmes. Une église qui n'est pas, qui n'évangélise pas, c'est une église qui est morte spirituellement, qui ne sert plus à rien. C'est pourquoi nous devons faire le maximum pour sauver des âmes, aussi bien à l'étranger, sur le champ missionnaire, que ici. C'est pourquoi nous devons avoir un progrès, un programme de, pour sauver des âmes, où chacun est engagé, chacun, pas seulement le pasteur ou quelques responsables, mais tous, chacun, doit être concerné. Je te prie pour ceux qui croiront en leur prédication, en leur message, une église qui prêche, qui témoigne. Ne fermons jamais la bouche. Notre mission ici-bas est d'amener des âmes au Seigneur. Amen. Il y en a qui sont tellement spirituels qu'ils pensent qu'ils n'ont plus besoin d'amener d'âmes au Seigneur. Ils doivent s'occuper des choses beaucoup plus importantes que ça, mon ami. La chose la plus importante dans ce monde, si nous sommes ici-bas, c'est d'amener des âmes au Seigneur. Amen. Si nous pensons que nous avons dépassé ce stade de parler du Seigneur à des âmes, nous sommes séduits. Et le message que Dieu nous a donné, la mission que Dieu nous a donnée, eh bien, nous la négligeons. Que Dieu nous garde. Parlons, témoignons, c'est notre mission. Gloire au Seigneur. Septièmement, Jean 17, 23. Et toi, afin qu'ils soient parfaits, parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Donc ici, c'est l'Église doit être unie dans l'amour. Notez cette septième mission de l'Église. Et afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as aimé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. L'Église doit être parfaitement unie dans l'amour. Ça, c'est aussi la mission de l'Église. Nous devons tout faire pour qu'il y ait cette unité entre nous. Amen. Ça, c'est très important. Et c'est là que le diable attaque le plus. Mais c'est là que nous devons veiller le plus. Veillons, veillons dans ce domaine-là. La mission de l'Église est de manifester aussi cette unité. Cela ne veut pas dire uniformité, mais unité. Donc, où il y a ce respect mutuel. Respectant chacun le ministère de l'autre. Le ministère. Les talents, les dons que Dieu a donnés à l'autre. Et si nous veillons à cela, alors nous accomplirons notre mission. C'est tout un apprentissage, je le sais, ce n'est pas facile. Mais cet amour doit grandir. Cet amour doit se manifester. Et cet amour, vous savez, pour que cet amour se manifeste, il y a une clé. C'est le sacrifice. Le sacrifice est la respiration de l'amour. Sans esprit de sacrifice, il n'y a pas de véritable amour. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Voyez-vous? Dans l'amour de Dieu, il y a cet esprit de sacrifice. Il a donné le meilleur de lui-même. Et dans l'amour divin, il y a cet esprit de sacrifice. Je ne cherche plus mon intérêt, mais les intérêts de Dieu et les intérêts de l'autre. Non pas en cherchant à faire ce qui plaît aux autres, mais en cherchant à leur donner ce dont ils ont besoin. Amen. Ça, c'est très important. Aimer, ce n'est pas faire ce que l'autre, faire tous les caprices de quelqu'un. Bon, bien des fois, on confond cela. On dit, tiens, puisque je dois aimer telle personne, je dois lui faire tous ses caprices. Pas du tout. Aimer n'est pas faire ce que l'autre vous demande. Mais aimer, c'est faire, c'est donner à l'autre tout ce dont il a besoin. Ça, c'est autre chose. Et ce besoin n'est pas, peut-être pas toujours ce qu'il veut entendre, mais c'est ce dont il a besoin. Alors, parfaitement unis dans l'amour, que le Seigneur nous aide à grandir dans cet amour, et je suis sûr que nous pourrons ainsi accomplir notre mission. Et pour terminer, huitième objectif, Jean 17, 24. 24. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Le huitième message de Jésus à l'Église, la destinée de l'Église est d'être avec Jésus pour toujours. La destinée de l'Église est d'être avec lui pour toujours. Je leur ai donné ta gloire afin qu'ils soient avec moi. Alléluia. Ne l'oublions pas. Ne l'oublions pas cela. Notre destinée, c'est d'être un jour avec lui. Il nous a préparé une place. Persévérons, combattons. S'il n'y a plus de place pour nous ici-bas, il y en aura toujours une là-haut. Alléluia. Notre patrie est dans le ciel. Nous ne sommes pas pour vivre éternellement ici. Alors, que le Seigneur nous donne de réaliser cela. Notre destinée est là-haut. Il nous a préparé une place. Nous serons bientôt avec lui. Faisons tout dans cette perspective de son prochain retour. Il revient pour nous emmener avec lui. Mais qu'il revienne en nous trouvant fidèles, obéissants, fidèles à cette mission. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voilà la mission de l'Église. Réjouissons-nous de ce qu'il revient bientôt. Il revient. Réjouissons-nous, mes amis. Et en attendant, soyons fidèles, sans nous laisser arrêter par qui que ce soit. Nous avons une mission. Qu'allez-vous répondre un jour à ce que Dieu vous demandera? As-tu été fidèle à la mission que je t'ai confiée? Vous savez, ça, c'est pas seulement pour les pasteurs, c'est pour tout le monde. Cette mission est pour chacun d'entre nous. Chacun d'entre nous. Vous allez répondre à ces questions un jour, dans le ciel, à cette mission, chaque point. Sommes-nous fidèles? Fortifions certains points. Renouvelons notre consécration. Et ainsi nous accomplirons la volonté de Dieu dans nos vies, dans l'Église, pour être une bénédiction dans ce monde. Le jugement vient, vous savez, dans ce monde, mes amis. Il n'y a rien à espérer dans ce monde. Nous devons encore sauver des âmes et pour les emmener auprès du Père. C'est là ce que Dieu veut de chacun d'entre nous. Soyons fidèles jusqu'à la mort et Dieu nous donnera la couronne de justice. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette mission que tu as confiée à tes disciples. Toi-même, tu as achevé l'œuvre que le Père t'avait confiée. Tu as été fidèle. Tu as dit, Père, j'ai achevé l'œuvre. Je t'ai glorifié. Que vraiment nous puissions dire aussi de nous la même chose. Que nous soyons fidèles. Que nous achevions l'œuvre que tu nous as confiée. Et que nous te glorifions pleinement dans notre vie, ici-bas. Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser arrêter par les obstacles, les difficultés, les épreuves de la vie. Tu as dit toi-même, prenez courage, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde, alléluia. Et cette joie qui est en toi, tu nous la donnes. Une joie dans l'épreuve, qui domine l'épreuve, qui contrôle l'épreuve, que nul ne peut ravir. Seigneur, parce qu'elle vient de toi. Ainsi, garde-nous fidèles à cette mission que tu confies à chacun d'entre nous et à l'Église, afin que ton retour soit hâté. Et que, Seigneur, nous soyons prêts pour ce retour. Prends nos vies, prends ma vie, Seigneur. Je veux faire ta volonté, avec joie, avec persévérance, avec amour, pour réjouir ton cœur et sauver des multitudes. À toi seul soit toute la gloire, dès maintenant et à jamais. Amen. Amen.